C'est Kaïa pour le magazine Dignité Noire. Donc moi, c'est Oumou. Un lundi sur deux, je présente une chronique littéraire. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, la chance de vous recevoir ici à Québec, dans nos studios. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Je vais présenter une nouvelle formule, car c'est la première fois que j'accueille des personnes au studio. Je vais vous présenter et je vais aussi vous tutoyer. Donc Yara, tu es romancière, anthropologue. Tu es l'auteur de 3 romans aux éditions Mémoire d'Encrier. Tu as reçu aussi le prix de la diversité du festival Métropolis Bleu en 2019. Rodney, toi aussi, tu es poète, écrivain, essayiste, éditeur et tu es l'auteur d'une quinzaine de livres de poésie. Donc aujourd'hui, si je vous reçois, c'est parce que vous venez de publier Les racistes n'ont jamais vu la mer aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci encore d'être là. J'aimerais, avant qu'on parle de votre livre, que vous nous parliez un peu de votre maison d'édition Mémoire d'Encrier. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaîtraient pas cette maison d'édition, alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quand est-ce qu'elle a vu le jour et pourquoi.
Merci Oumou, merci beaucoup, merci aux gens qui nous écoutent. Mémoire d'Encrier est née en 2003. Ça fait 2003-2011, ça fait 18 ans, donc 2023, ça va faire le 20e anniversaire de Mémoire d'Encrier. On s'apprête à fêter avec tout le monde les 20 ans de Mémoire d'Encrier. Donc, c'est quoi Mémoire d'Encrier? Mémoire d'Encrier, c'est d'abord, en fait, une idée de la révolution. Et idée de la révolution dans le sens où on comment exister dans une ville, dans un pays, et qui n'est pas le pays où on est né, ou bien qui n'est pas le pays de notre grand-mère, de nos grands-pères. Et donc, c'est comment traverser les mers, comment être des exilés, et faire sa place dans un espace. Donc, et on s'est dit, seule la littérature permet ça. Donc, Mémoire d'Encrier, c'est une maison d'édition qui suit ces idées-là, c'est-à-dire les idées de vivre ensemble, les idées de ce qu'on appelle aujourd'hui diversité, les idées d'autochtonie. C'est-à-dire, Mémoire d'Encrier est établie à Montréal, mais Mémoire d'Encrier est partout dans le monde. C'est-à-dire, Mémoire d'Encrier est à la recherche des humanités, parce que souvent on dit moi, je suis, on oublie le nom. Donc quand on oublie le nom, on exclut les autres. Et donc l'une des problématiques de Mémoire d'Encrier, c'est l'altérité. Comment nous pouvons être ensemble avec les Sénégalais, avec les Palestiniens, avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, avec les Haïtiennes, les Haïtiens, avec les Québécois et les Québécoises, avec les Innus, avec les Cris. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble sur l'humanité que l'on trouve chez Mémoire d'Encrier. Et la meilleure illustration de Mémoire d'Encrier, c'est la seule maison d'édition ici au Québec ou au Canada qui habite le monde. Si vous demandez des écrivains, si vous voulez lire des écrivains qui viennent de l'Asie, frappez à la porte de Mémoire d'Encrier. Si vous voulez lire des écrivains qui viennent, en fait, du Sénégal, frappés chez Mémoire d'Encrier. Donc, il y a on essaie de construire un discours pour dire le monde est ici. Parce que c'est trop facile d'être ici, de rester ici. On essaie de créer l'horizon. C'est un mot que Yara Elgadman, qui est éditrice à Mémoire d'Encrier, aime beaucoup. C'est l'horizon. C'est-à-dire l'horizon est plus loin.
Ok, merci Rodney. Alors, écrire un livre à deux, ça demande, je pense, une certaine gymnastique. Vous avez l'habitude de travailler ensemble. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que vous avez procédé et comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre?
Ben, d'abord, bonjour Oumou et bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous. Alors, en fait, l'idée, c'était d'abord, c'est Rodney qui est venu me voir et qui m'a dit, Yara, j'aimerais bien que nos conversations sur le racisme, qu'on en a à tous les jours, j'aimerais bien que on les mette sur un papier puis qu'on les partage avec tout le monde. J'aimerais bien inclure tout le monde dans nos conversations. Évidemment, on est deux éditeurs, deux auteurs, deux personnes avec des parcours de migration, d'exil. Et nous avons été confrontés à différentes formes, soit d'exclusion, mais aussi de vivre ensemble, des défis de se sentir entier alors qu'on est un peu des personnes qui ont été, je dis souvent, un peu tronquées par l'expérience de l'exil. Et donc, on en parle à tous les jours. Et puis, on s'est dit, mais on ne veut pas que ça soit entre nous, simplement, entre un homme noir et une femme arabe musulmane. Je pense que ce que nous avons à dire, ça mérite d'être partagé avec tout le monde, parce que le racisme, ce n'est pas juste l'affaire des hommes noirs et des femmes arabes et musulmanes. C'est vraiment, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce qu'on a fait ensuite, j'ai simplement créé un document partagé. Et puis, on ne s'est pas donné ni de règles, ni de contraintes. La seule condition, c'est qu'on écrive avec vérité et avec la plus grande liberté, sans censure. Et ça arrivait souvent où on peut être dans un café, et puis là, on se met à parler, et puis là, on rentre chacun de son côté, puis là, on va sur le document, puis on écrit, puis moi, après ça, je lis ce qu'il a écrit, je réponds, lui, il lit ce qu'il m'a écrit, et puis c'est comme ça que ça s'est créé, de manière très organique, et très... En fait, c'était toujours comme un prolongement de nos conversations.
Ok, je trouve ça vraiment très original comment vous avez écrit le livre et aussi comment c'est partagé, puisque en fait on a vraiment l'impression que vous vous parlez et qu'on assiste à vos conversations. Le racisme, on en parle souvent encore en 2021, il y a encore du racisme à Québec. Je le rappelle qu'au Québec, le racisme systémique n'est pas reconnu. Dernièrement, on l'a vu sur la rue Saint-Réal, l'œuvre Black Lives Matter a été plusieurs fois vandalisée, donc on en parle encore malheureusement. Je vous demande pourquoi, en fait, vous le dites dans le livre, que le racisme, c'est une discussion nécessaire, mais pourquoi, selon vous, tu as un peu répondu à la question, mais j'aimerais bien entendre Rodney aussi là-dessus, pourquoi le racisme, c'est une discussion nécessaire pour vous?
Oui, parce que le racisme est une pandémie, et contre le racisme, il n'y a pas de vaccin. Donc, il n'y a pas de médecin, et il n'y a pas d'expertise. Et on le vit, le racisme, on le vit. On le vit à travers le regard d'un autre. On le vit à travers les mesures étatives, des décrets des gouvernements. On le vit, en fait, quand on est des êtres racisés, quand les politiciens parlent, on sent l'exclusion. On sent qui est exclu, on sent qui est inclus dans le discours. Et on le sent quand on entend les journalistes parler, quand on entend qu'on présente les gens, la différence qu'on fait quand on présente une personne racisée ou bien qu'on présente une personne, je dirais, pure laine, mais ça n'existe pas, la laine pure, mais on le sent, on le vit. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment nos expériences. Et pas seulement nos expériences de racisme, parce que le livre commence par une phrase, je disais à Yara, dans l'invitation, le racisme ne prendra pas toute la place. Mm-hmm. Parce que, au moins, ce qui est difficile pour nous, c'est que nous, en tant que personnes racisées, nous n'avons pas la responsabilité de résoudre les problèmes du racisme. Vous l'avez bien dit, le racisme est systémique. Ça veut dire quoi? Le racisme n'appartient à personne. Le racisme appartient à la société. Donc c'est la société qui doit prendre les mesures pour répondre aux problèmes posés par le racisme. Mais si le racisme est systémique, les réponses aussi doivent être systémiques. Les réponses ne doivent pas être ici, limitées dans un périmètre. Donc il nous faut, en tant que société, réfléchir à un vivre ensemble. Si on réfléchit à un vivre ensemble, l'idée n'est pas de dire que, bon, il y a une pandémie qui s'appelle le racisme, mais on va essayer d'arranger les choses. Non, on ne pourra pas arranger les choses tant qu'on ne pose pas la question ici de la condition noire. Parce qu'il y a une condition noire ici. Quand on ne pose pas la question de la condition autochtone, il y a une condition autochtone quand on ne pose pas la question de la condition arabe ou moyen-orientale ici. Et c'est ça. Et quand on met toutes ces conditions en présence, on établit des passerelles entre ces conditions-là. Et c'est là qu'on devient une société humainement plus forte et plus grande. Parce que qu'est-ce que le racisme empêche à une société, par exemple, comme la société, comme le Québec? Eh bien, le racisme nous empêche de grandir. Le racisme nous empêche de devenir une véritable société parce que c'est tissé serré. C'est comme c'est tissé serré, tricoté tissé serré, ça fait quoi? Ça fait qu'on perd tellement de beauté, d'énergie, d'humanité. Donc, la question que Yara et moi nous posons dans ce livre, c'est d'autres vies que les nôtres, d'autres expériences que les nôtres. Et dans ce livre, ce qu'on essaie de faire, c'est d'amener vers le sensible. On ne fait pas de théorie sur le racisme parce que on n'a pas produit des théories sur le racisme ni sur l'antiracisme. Ce qu'on a essayé de faire, c'est créer un dialogue vivant, pas avec les gens racisés, mais avec les blancs. Avec les blancs, on parle de fragilité blanche comme si c'était impossible pour les blancs. Ça fait du mal de parler du racisme, ça fait du mal, mais ça nous fait tous les jours du mal.
Oui.
De le vivre, de l'expérimenter. Donc ensemble, on va en parler. C'est peut-être une invitation à parler du racisme, ce livre.
Ben oui, justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que tu l'as si bien dit. Moi, j'ai été très touchée lorsque vous évoquez votre première fois au racisme. Ça m'a fait penser aussi à ma première fois. Et la première fois que je me suis rendu compte que j'étais noire, j'avais 10 ans. C'était en Belgique, à Bruges. Je faisais du vélo avec ma famille. Et on a eu un commentaire déplacé de la part d'un individu. J'espère ne jamais vivre ma première fois ici au Québec, du racisme, parce que je suis fatiguée. Est-ce que vous n'êtes pas fatiguée parfois d'en parler?
C'est une question qu'on nous pose souvent. Et la réponse est simple, c'est qu'on n'a pas ce luxe d'être fatigué. C'est-à-dire que c'est une condition d'existence.
Mmh.
Et quand on est une personne racisée, Homo, tu le sais toi-même, j'imagine, on peut être en train de marcher dans la rue et on ne veut pas ni parler de racisme, ni penser de racisme, mais il suffit que quelqu'un te regarde.
Oui.
Et ça te ramène tout de suite à qui tu es, à la couleur de ta peau, aux cheveux, à ta religion, alors que c'est pas vraiment quelque chose auquel on pense. Et on peut être écrivain, on peut être éditeur, et il suffit que quelqu'un fasse un commentaire déplacé, et puis c'est comme si tout de suite il élimine tout ce que tu es comme personne, tout ce que tu as accompli, tout ce que, pour te réduire à ce qu'il voit.
Mmh.
Donc, on n'a pas vraiment ce luxe-là. Mais s'il y a une chose que moi, je me dis, je n'ai pas besoin non plus d'accepter la conversation telle qu'elle est imposée aux personnes racisées. Je n'ai pas besoin d'accepter ni le timing, ni la façon d'en parler. Je peux proposer et mon rythme, et ma pensée, et mes sujets, et je peux décider que ça va être moi qui va fixer cette conversation-là et qui va proposer une orientation autre. Et je pense qu'il y a là comme un sentiment de empowerment, comme on dit. Donc nous, en écrivant ce livre-là, la première chose qu'on s'est dit, et de manière très mégalomane, on va écrire le meilleur livre sur le racisme et on va écrire un livre que personne n'a écrit encore. Et la seule façon que nous, on a trouvé comme écrivain pour le faire, c'est en étant complètement sincère et honnête par rapport à nos vulnérabilités, par rapport à nos expériences, et de simplement déposer les mots pour semer justement les graines d'une conversation autre sur le racisme. On n'a pas besoin d'accepter que ça soit les chroniqueurs qui dictent comment on va parler du racisme. On n'a pas besoin d'accepter que c'est les politiciens qui dictent comment on va parler du racisme. On peut décider, non, la conversation, on va l'avoir de telle façon-là parce qu'elle est plus intéressante et parce qu'elle va nous permettre d'agir autrement, de penser autrement. Et c'est un peu ça qu'on a fait avec ce livre-là. Alors là, on dit non, on n'est pas fatigué. Au contraire, on n'a même pas commencé encore. Vous pensiez que vous avez parlé de racisme, mais non, on n'a même pas commencé encore. Voilà ce qu'on vous propose. On vous propose un autre chemin.
Oui, moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé, en tout cas, dans le début du livre. C'est que c'est pas fait comme on a l'habitude de voir. C'est pas des statistiques, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer ça. T'as parlé un peu de
mégalomanie.
Oui, mégalomanie, pardon. Et en fait, c'est vraiment très fluide parce que personnellement, moi, des fois, comme tu dis, comme tu viens de l'évoquer, bah oui, moi, je suis une femme racisée. Donc, des fois, j'ai pas envie de parler du racisme. Mais comme tu dis, ben, tu sais, ça t'arrive très rapidement dans la face. T'arrives quelque part, t'es la seule personne noire. Tout le monde te regarde et te demande, bah, qu'est-ce que tu te fais là? Bah, ils te le demandent pas, mais tu sais. Tu t'imagines que c'est ce qui se demande. Et bah c'est pareil en fait avec le livre, c'est que c'est très fluide, c'est facile à lire et c'est pas, ça nous rentre pas en fait directement dans la face. C'est juste une conversation, c'est juste une lecture. Je sais pas comment exprimer ça, mais c'est tellement on a tellement envie de lire au fil des pages l'horizon. D'aller plus loin et de et voilà, c'est pas parce que des fois de lire des livres sur le racisme, bah il y a souvent les auteurs racisés, je le dis très souvent, les auteurs racisés quand ils écrivent des livres, ils écrivent souvent bah des traumas, des choses qui leur arrivent qui sont quand même assez dures. Donc des fois quand on prend un livre aussi, on a juste envie bah de s'évader et avec cette conversation avec le racisme, vous arrivez très bien à le faire dans votre livre, c'est ça que je trouve très intéressant.
Ce que je voulais vous dire j'aime beaucoup quand tu parles de cette mémoire traumatisante. Nous, on n'est pas des victimes. Yara était prof d'université, Yara est pianiste, Yara est ethnomusicologue, Yara est anthropologue, Yara a deux enfants. Donc, et on n'est pas dans la dépossession, on n'est pas en fait dans une colère primaire pour dire que nous n'avons rien, nous n'existons pas. Et c'est-à-dire que moi, je suis écrivain et directeur d'une maison d'édition qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser en tant que victime dans cette société. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, et Yara l'a très bien dit, c'est de déplacer les cadres. C'est-à-dire qu'on a peut-être le pouvoir de faire le meilleur livre sur le racisme. Pourquoi je le dis? C'est un livre qui n'exclut pas, un livre qui intègre. Parce que souvent, si on commence par dire « vous les racistes », mais les gens avec qui on veut introduire la conversation, les gens ne se sentent pas engagés ni impliqués dans la conversation. Nous, nous voulons les impliquer dans la conversation. Parce que quel est le combat? Le combat, c'est un combat pour le discours. Ok, c'est un combat pour le discours public. Comment ça se passe au niveau du discours public? Au niveau du discours public, ça se passe que le Premier ministre dise comment parler du racisme. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux autochtones comment parler du racisme. On ne va pas demander aux Noirs comment parler du racisme. Mais il y a un ministre souvent blanc, un homme blanc, un Premier ministre souvent un homme blanc, qui va dire comment parler du racisme. Il ne veut pas, M. Legault l'a dit clairement, je ne veux pas entendre parler du mot systémique. C'est lui qui prend sur lui, c'est lui qui fonde les mots et c'est lui qui enlève les mots. Moi, j'aurais aimé qu'on laisse aux familles victimes de racisme, en fait, d'engager la discussion pour dire comment on va mettre des mots sur ces blessures-là. J'aurais aimé qu'on parle aux réfugiés qui sont victimes de racisme, qui, dans leur parcours d'immigration, aux femmes qui sont violentées, en fait, et dans ces parcours-là, aux hommes, aux êtres humains, avec leurs humanités qui ne sont pas reconnues, aux gens qui sont victimes dans leur chair, dans leur vie, dans leurs mots, partout, parce que c'est systémique, dans leur regard de racisme. Ces gens-là, quand on les inclut dans la conversation, pas comme des subalternes. C'est comme si le discours sur le racisme, c'est comment faire pour nous, comment nous intégrer. C'est un discours très violent. Et là, ce qu'on demande, on demande, et si on parlait de nos grands-mères? On demande de parler à égalité. Et qu'est-ce qui est arrivé dans ce livre, Oumou? Comme tu dis, la première fois que tu découvres le racisme, il y a plein de blancs qui nous appellent pour raconter leur propre histoire, pour dire eux aussi, ils n'ont pas vu la mer, elles non plus, et puis il y en a qui disent, quand je vois ça, je me rends compte, Yara, que je suis une femme raciste, parce que voilà ce que j'ai pas vu, parce qu'il y a une part inconsciente dans le racisme, et ce qu'on a fait peut-être que les gens aiment beaucoup, c'est-à-dire que On n'a pas dit, le Québec n'a pas le monopole du... Le Québec, c'est une petite province. Le racisme, c'est partout, sur tous les continents. Donc, il ne faut pas que donner aux gens, aux individus, le poids du racisme. Non, le racisme, c'est l'histoire. Il y a une histoire du racisme. Les individus, dans leur vie privée, ils peuvent nous... C'est pas ça le problème, c'est pas les individus. Et c'est pourquoi on veut revenir au mot systémique, parce que c'est un système qui produit. C'est l'école, c'est les hôpitaux, c'est les universités, c'est dans la rue, c'est dans les restaurants. C'est pas un individu. L'individu est libre dans ses actions. Est-ce que vous voyez, on va se battre dans la rue, c'est pas ça le problème. C'est quand ça, la société secrète. Et c'est pourquoi, comme le disait Yara, si on déplace le cadre de la discussion, si on peut le faire à notre temps, parce que si vous le déplacez à votre, dans votre espace, à votre temps, et vous, c'est vous qui posez les questions, donc vous êtes parti gagnant. Et il n'y a pas de perdant, il n'y aura ni gagnant ni perdant. Simplement, il y aura une société meilleure que l'on va construire si on accepte d'introduire dans l'espace public, dans le discours social, si on accepte d'introduire le racisme, comme on vient d'introduire la pandémie. Tout le monde parle de la pandémie, tout le monde porte des masques. Mais je pense, contre le racisme, au contraire, il faut enlever les masques.
Merci, Rodney. C'était très intéressant ce que tu viens de partager. Moi, je voulais aussi parler de représentation. Donc, je l'ai lu un peu parce que je vous connais un petit peu parce que j'ai aussi fait des recherches et j'ai lu aussi certains de vos livres. Pour vous, les représentations, en tout cas pour toi, Rodney, ta grand-mère a été importante et pour toi, Yara, d'après ce que j'ai compris, ton père aussi. Pourquoi c'est important d'avoir des représentations dans la littérature aujourd'hui?
Mais je pense que la façon que les humains avancent, c'est souvent en se représentant, en se projetant. Faire quelque chose, faire un idéal ou faire un rêve. En fait, c'est ce qui fait qu'on avance comme société et comme individu, c'est qu'on a cette capacité symbolique d'inventer ce qui n'existe pas. Et c'est ça que la littérature permet. Mais ça prend parfois des figures aussi qui nous montrent le chemin. Ça prend des figures aussi qui nous disent qu'il y a une histoire avant vous, que vous n'êtes pas, en fait, vous pouvez être des exilés. Mais vous n'êtes pas justement des personnes amputées de l'histoire. Il y a une histoire avant vous. Et les grands-mères, souvent, justement, les grands-mères deviennent des figures et les parents des figures très importantes. C'est la chose à laquelle on s'accroche. Parce qu'ils représentent non seulement la mémoire et l'histoire, mais aussi une part de l'identité qui souvent précède l'exil. Et donc, qui nous ramène à la source, qui nous ramène à l'enfance, qui nous ramène à un moment où la société n'avait pas encore, nous avait pas encore agressés, tu sais, en nous montrant les limites, en nous montrant, en nous disant qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes femme, qu'est-ce que vous pouvez ne pas faire et tout ça. Et je pense que c'est ce qui est intéressant avec les grands-mères. Rodney parle de Tida qui ne savait pas lire et qui lui a appris à lire. Moi, c'est pareil. Moi, ma grand-mère ne savait pas lire. Et mon père était le premier dans la famille qui a pu finir ses études. Et parce qu'il a pu finir ses études, moi, j'ai pu grandir, être éduquée, être la première dans la famille à avoir un doctorat. Ma mère a étudié la littérature. Ma mère est allée enseigner au fin fond de l'Arabie saoudite, alors qu'il n'y avait pas électricité, il n'y avait rien. Et c'était pour elle un moment aussi de découverte d'elle-même et d'indépendance et d'autonomie. Et quand je vois ce que mes parents me disent, ma mère me disait, Yara, si tu veux libérer la Palestine, il faut que tu continues dans ton éducation. Il faut que tu sois... Parce que c'est la seule chose que personne ne pourra te prendre. Personne ne peut te prendre ce que tu as appris. Personne ne peut te prendre ce que tu as lu. Les histoires qui t'habitent, les histoires qu'on t'a racontées, ça t'appartiendra à toujours. C'est là, c'est comme un puits, tu peux aller puiser là-dedans à chaque fois que t'as l'impression que tu es assoiffé et puis que la société t'a sucé de ton énergie, tu peux aller puiser là-dedans. Et je pense que c'est ça les figures quand on parle des ancêtres, c'est ça qui est important. Et souvent c'est salvateur pour les personnes réfugiées, pour les personnes exilées, je pense.
Merci. Justement, continuons dans la représentation. Comme tu l'as dit, l'éducation, c'est très important pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire ou qu'est-ce que vous pouvez dire aux prochaines générations?
Ah, mais je ne sais pas, peut-être, Audrey, tu voudrais...
Mais nous, on n'est pas dans... En fait, la représentation, c'est important. Ce n'est pas qu'on veut se poser comme modèle. Et que si on est en train, on aime beaucoup vous parler au mot, ce qu'on est en train, on aimerait les écouter mm-hmm. au lieu de proposer et d'imposer. Parce qu'il y a tellement de propositions. On leur dit comment aller à l'école, on leur dit comment faire, on leur dit comment, en fait, comment s'habiller, on leur donne, il y a trop d'ordre. Et nous, on introduit un désordre qui n'est pas, parce qu'il faut défaire. En fait, cette société, comme elle est faite, en fait, parce qu'on parle beaucoup de colonialité, parce que rien n'est acquis. Quand je dis rien n'est acquis, ça veut dire et qu'il faut se défaire des idées toutes faites, des stéréotypes. Il faut voir l'horizon. Et ce que nous promettons, c'est de ne pas nous arrêter aux mensonges de l'histoire. Il y a tellement de mensonges de l'histoire. Moi, j'ai été admis à l'Académie des Lettres du Québec. Je suis très content. Je dis merci à tous ces écrivains, à toutes ces écrivaines qui sont mes confrères et mes consoeurs. Je suis heureux parce que ma grand-mère ne savait pas lire. Et ce qui est intéressant, c'est la connexion à notre propre histoire. Donc, quand je prends ma grand-grand-mère, Tida, et j'ai été dans le discours inaugural que j'ai prononcé à l'Académie des Lettres du Québec, c'était « Je suis le petit-fils de Tida ». C'est-à-dire que je pense qu'il y a des mensonges de l'histoire. Quand on voit une Québécoise, un Québécois, c'est rare que son grand-père, sa grand-mère savait lire. Donc c'est pas... Moi, je dois simplement dire que je suis heureux que cette grand-grand-mère qui ne savait pas lire m'a donné le verbe lire. Elle m'a donné l'alphabet Tida. Et Je suis heureux de dire aussi que je suis le petit-petit-petit-fils d'un esclave. Que Saint-Éloi n'est pas mon nom, c'est le nom du gérant de la plantation. Quand je dis ça, c'est pas pour me plaindre, c'est pour savoir de quelle histoire dont je suis le produit. L'être humain que je suis, je me questionne tous les jours. Et s'il y a, en fait, vous demandez des propositions... Moi, j'aurais dit, il y a un ensemble de questions qu'un être humain doit se poser. Et moi, tous les jours, je me pose des questions. Les questions changent. Et puis, il n'y a pas souvent de réponse. Et je pense que ce que j'essaie de faire, c'est de laisser entrer en moi, de laisser cheminer en moi les questions. Dans ce livre, il y a très peu de réponses. Mm-hmm. On ne veut pas être moralisant. On ne veut pas dire aux gens comment vivre. La seule chose, notre seule certitude, c'est qu'une société sans racisme vaut mieux qu'une société raciste.
Merci Rodney pour ces belles paroles. Je pense que je ne sais pas quand, ça serait intéressant de faire une discussion avec des jeunes pour savoir, comme vous l'avez dit, que c'est important de les écouter puisque... On se pose beaucoup de questions et on leur demande beaucoup de choses à faire. Donc, c'est ainsi que cette... entrevue se termine. Est-ce que vous avez des choses à rajouter?
Oh, mais simplement de dire merci au monde, merci de cette belle conversation. Et peut-être la seule chose que je dirais, nous, à Mémoire d'Encrier, on essaye beaucoup d'être à l'écoute des jeunes de la relève parce qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Ils nous apprennent beaucoup de choses sur la société qu'ils veulent construire. Je découvre une génération qui a soif d'utopie et qui commencent à se construire leur propre utopie en disant on veut une société qui n'est pas raciste, on veut une société qui ne pollue pas, on veut une société plus égalitaire. Donc je réponds à l'invitation, je dirais oui, j'aimerais beaucoup en fait qu'on se rassemble et puis qu'on écoute les jeunes et je pense que j'aimerais bien qu'un jour ils écrivent leur propre livre et que ça soit pas sur les racistes. Ça soit sur autre chose.
Merci Yara, merci Rodney pour ce bel échange.